l'invité de la rédaction. L'invité de la rédaction est un groupe emblématique de hip-hop français présent sur la scène musicale depuis 1988, originaire de Marseille et composé de Akhenaton, Shuriken, Kéops, Imhotep et Kefrem. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Akhenaton du groupe IAM. Comment allez-vous ?
Très bien, et vous ? J'espère bien.
Ça va, super, merci. Alors, nous vous recevons à l'occasion de votre venue à Strasbourg pour le concert qui se déroulera à la Laiterie ce dimanche 31 octobre à 19h30 et également pour parler de la sortie du nouvel EP, Troisième Vague, qui est disponible sur toutes les plateformes de streaming depuis le 22 octobre et aussi en physique et en vinyle chez plusieurs revendeurs et sur la boutique officielle bishop.fr. Alors, vous avez débuté la nouvelle tournée du Warrior Tour depuis le 23 octobre avec un premier concert qui s'est déroulé à Lyon. Déjà, je voulais savoir comment s'était déroulé ce premier concert et comment vous sentiez de retrouver un peu la scène, le public et toute cette chaleur humaine après cette période étrange.
Eh oui, c'était, on va dire que ce n'était pas gagné au départ, parce qu'on nous annonçait chaque fois que ce n'était pas sûr que la tournée soit maintenue. On a eu la chance jusqu'à aujourd'hui de faire déjà 4 concerts. Donc on a joué à Nancy, à Reims, à Genève et à Lyon. Et vraiment, ça fait chaud au cœur de retrouver le public. Et je pense que c'est à la fois un partage, c'est ce qu'on dit un peu tous les soirs. C'est-à-dire qu'on donne beaucoup de nous-mêmes, puisque le show est assez long, on se dépense beaucoup. Mais en même temps aussi, on reçoit aussi beaucoup des gens qui viennent voir et beaucoup de bonnes énergies. Et ça fait vraiment du bien.
Alors, ça fait maintenant plus de 25 ans que vous venez faire des concerts au sein de l'Eurométropole de Strasbourg. Est-ce que vous avez un petit souvenir en particulier ou un moment de vie qui vous a marqué particulièrement à Strasbourg avec le groupe ?
Je pense que c'est les liens d'amitié avec ces concerts à Strasbourg qu'on a fait depuis 25 ans, les liens d'amitié qu'on a eu avec le groupe anciennement qui s'appelait Colors et puis avec des rappeurs comme Frérot ou Cadavre. C'est ces années où on faisait plus des très petites salles et où on faisait beaucoup aussi de freestyle avec pas mal de rappeurs de la région. Mais le lieu où on va jouer à Dimanche, c'est un lieu emblématique pour nous. La Laiterie, c'est avant qu'elle soit rénovée, c'est déjà là où on faisait nos concerts dans les années 90.
Okay.
Donc c'est pas toujours le cas quand on parcourt la France que des salles survivent ou soient rénovées ou réhabilitées. Celle-là a été vraiment super bien réhabilitée et c'est une salle qu'on aime particulièrement parce que le public est très proche et qu'on a fait le choix et la démarche avec IAM de faire des tournées avec des salles où les gens nous voient un peu plus près que dans des zéniths ou des très grands festivals.
C'est vrai qu'il y a une réelle proximité et du coup c'est vraiment un choix de votre part de prendre peut-être des salles un petit peu plus petites mais conviviales.
Oui, c'est pour la convivialité. Après, franchement, économiquement, en ce moment, c'est pas trop le bon choix. Il y aurait plus d'équilibre à faire financier, à faire des grosses salles. Mais honnêtement, je pense que le plus important, c'est comment on sent les choses, la tête, à la fois des gens qui viennent voir, et puis à la fois du groupe, on a besoin de sentir cette cohésion et c'est pas nécessairement la même chose quand on est dans des grandes salles. Dans des grandes salles, ce sont des spectacles plus réglés, plus timés, minutés, avec des décors et beaucoup plus de monde sur la route pour nous. Là, on est dans une équipe un peu plus réduite par rapport à celle des Zéniths. Et du coup, il y a plus de moments, on va dire, d'imprévus, d'impro, de relâchement, de rigolade sur scène. Et c'est ça qu'on avait envie de faire. On avait envie de recommencer la scène par ça.
Plus d'imprévus, quoi. Ok. J'avais ensuite une question par rapport à cette période du Covid. Comment est-ce que vous avez un peu profité de cette période du Covid au niveau du groupe ? Est-ce que vous êtes concentré plus sur la réalisation des EP, la production musicale ou plus peut-être sur la scénographie, à réfléchir à comment vous allez faire les concerts et ce genre de choses ou ça a été vraiment une période un peu plus... est-ce que c'est quelque chose qui vous a été profitable pour le groupe ?
Vous pouviez le dire, une période de Netflix.
Ouais.
Non, ça n'a pas été une période ni Netflix, ni... On a été en studio tout le temps. C'est-à-dire à la fois dans l'aspect scénographique, parce qu'on a répété plusieurs tournées qui ont avorté. Hein, et ça, c'est des fois, ce qu'on essaie d'expliquer aux gens, on dit oui, mais quand nous, une tournée, elle est annulée, nous, c'est 2 mois, 3 mois de répétition qui sont... qui sont foutus au sol. Donc c'est vrai qu'il y a eu des gros mois de répétition qui n'ont servi à rien. Ça nous a occupé une partie du temps, mais au moins ça nous a occupé la tête. Et puis après, toute la partie studio, là oui, par contre, réaliser, travailler, parce que on est retourné en production indépendante sur ces EP, sur cet album. Et du coup, on s'est retrouvé à travailler vraiment en interne avec les confinements. J'ai fait pas mal de prod, la quasi-totalité des prods musicales, mais aussi ingénieur. J'ai fait les mix sur cet album, donc du coup, c'est quelque chose qui a été très chronophage pour moi. Ça m'a pris énormément de temps parce que j'avais plusieurs fonctions. Et c'est un peu pareil pour les amis du groupe. En tout cas, ça a eu un avantage, c'est qu'on était tous les jours au studio ensemble à bosser sur de la musique. Ça nous empêchait de cogiter, ça nous empêchait de se faire envahir par une forme de colère, hein, une colère à se dire mais pourquoi on ne peut pas pratiquer notre métier. C'est la même colère qu'on a aujourd'hui quand on voit qu'il y a un pass sanitaire pour les concerts et qu'il n'y en a pas pour les meetings politiques. Voilà, il faut se poser les bonnes questions. Au bout d'un moment, c'est la France, deux poids, deux mesures.
D'accord. Et je voulais parler alors de quand même de la musique, hein, du nouvel EP, le troisième vague, qui est disponible depuis le 22 octobre. Donc, il vient suivre la première vague et la deuxième vague, les deux EP d'avant. Et donc, il a toujours cette formule donc, de 6 titres sur l'EP. Et alors, oui, justement, vous en parliez de l'autoproduction de cet EP sur le label Côté Obscur. Comment est-ce que vous avez réussi à concilier le fait de tout faire au sein de l'EP, que ce soit la partie technique avec le mixage, la production, ou peut-être la promotion et ce genre de choses, et en même temps arriver à rester concentré sur la création musicale et la création artistique? Est-ce que c'est quelque chose qui a été difficile à gérer, ou est-ce que c'est justement quelque chose qui vous a laissé des libertés et du coup vous a ouvert de nouveaux champs?
C'est un peu les deux, en fait. C'est un peu les deux. La difficulté de gestion, elle est surtout dans le temps, en fait. Et que ce sont des choses qui sont faisables, mais faisables avec beaucoup de temps. Et des fois, j'avais des rendus par rapport à la fabrication du vinyle. Il faut savoir que, par exemple, aujourd'hui, on fait beaucoup de vinyle, mais le vinyle, pour le fabriquer, entre sa sortie et le moment où on l'envoie en fabrication, il y a quasiment maintenant des délais qui sont entre 14 et 16 semaines. Donc du coup, ce sont des morceaux qui ont été faits il y a un moment, et moi j'étais pressé par le temps. Donc il y a à la fois la volonté de se prendre du plaisir, de se détacher, mais pour moi en tant qu'ingé, en tant que producteur sur ces EP-là, une obligation de temps qui a fait que j'ai fini un peu la production des 4 EP un peu raplapla, quoi, un peu fatigué, mais très satisfait.
D'accord. Du coup, je voulais parler un peu de la ligne artistique de l'EP. Donc, moi, ce que j'ai trouvé et que je pense beaucoup d'auditeurs ont trouvé, c'est qu'on a vraiment une recherche harmonieuse des mélanges au niveau des sonorités, que ce soit avec des ambiances comme des morceaux comme Au final et été, qui sont plutôt, j'ai trouvé un peu des sonorités funk, G-funk et soul, tout en restant hip-hop. Et ça vient bien contraster avec des titres comme Limonade et Sirop de menthe, où il y a une ambiance vraiment sombre avec une boom-bap très sombre. Ou encore une trappe énervée et engagée sur Démocrasseux. Vous pouvez nous raconter un petit peu ce que vous avez cherché à faire comme rendu? Et j'avais aussi une autre question du coup qui découle de ça, sur la partie instrumentale. Est-ce que vous avez travaillé avec d'autres beatmakers en dehors du groupe, ou alors des instrumentalistes, ou encore d'autres personnes?
Alors, à la première question, c'est que nous en fait, on fait en vrac. C'est-à-dire si tu pouvais voir la création d'un album d'ailleurs, ou même d'un EP, on fait des tas de morceaux, et après ceux qui sont les mieux, on les sélectionne et on les garde à l'intérieur. Donc c'est vrai que la couleur, en fait, on la cherche pas, on fait des morceaux dans des lignes musicales qui nous inspirent, hein, parce que nous aussi, on est influencé aussi par la musique qu'on écoute et par ce qui se fait. Donc, le reflet musical d'un EP n'est pas forcément le fruit d'un calcul. C'est quelque chose qui se fait. Bon, ok, on a les 6 titres, ils nous plaisent, ceux-là, lesquels on prend, on en a 12, 13, ok, on prend ces 6-là, et c'est ceux-là les plus aboutis, on les met dedans. Donc, de ce point de vue-là, c'est on procède vraiment comme on a toujours procédé avec Ayam, et ça nous arrive des fois de faire des crossovers avec d'autres beatmakers, comme Oublie ce qu'on t'a dit, qui est un morceau que j'ai composé avec un producteur qui s'appelle Dance, un producteur marseillais, ou alors Change, qui a été fait avec un producteur de Cannes qui s'appelle Al, qui était le producteur de Chien de Paille.
D'accord.
Je trouve que, justement, les beatmakers, on a toujours été trop isolés. On n'a jamais fait trop de partage de prod, et contrairement aux rappeurs qui s'invitent les uns les autres. Et depuis quelques années, là, j'essaie de d'inviter des personnes que j'apprécie, ou dont j'apprécie le son, ou alors que j'apprécie humainement, à faire des co-compositions. Et je trouve que ça, en tout cas, moi, en tant que beatmaker, ça me permet d'évoluer et d'aller des fois dans des directions dans lesquelles je n'irai pas moi-même tout seul.
Parce qu'on sait qu'à la base, donc à la base du groupe, c'était surtout Imhotep qui faisait les instrumentales, et puis vous également par la suite qui avez repris.
Imhotep et moi, en fait. Moi, dès le début, j'ai toujours fait des prods. Hein. C'est quelque chose qui se sait pas beaucoup, parce que mon rôle de rappeur a complètement occulté mon rôle de beatmaker dans le groupe. Mais par exemple, sur des albums historiques comme L'école du micro d'argent, j'ai fait Petit Frère, Né sous la même étoile, L'Empire du côté obscur, Un bon son brut pour les truands. J'ai fait la moitié de l'album à peu près.
Ok.
Donc j'ai toujours été très présent en prod. Voilà, dans celui-là encore plus, parce que Imhotep est dans une situation de déménagement et donc très peu disponible sur la période où on a enregistré. Donc on le retrouvera sûrement dans les projets à venir.
Alors, je voulais aussi parler encore des deux featurings sur l'EP. Donc, il y a le premier qui est sur Au Final avec l'artiste choriste Saïd qui prête sa voix sur les refrains et sur le titre. Il vous accompagne habituellement, si j'ai bien suivi, sur les concerts en live également.
C'est ça.
Et le deuxième sur le titre Été, qui est perso un de mes titres préférés de l'EP, et avec l'artiste Elodie Rama. Est-ce que vous pouvez un peu nous raconter un peu comment ça s'est mis en place?
Elodie est une chanteuse de jazz qui à l'origine est de Nantes, mais qui habite à Marseille. Nous, on a eu l'occasion de se croiser dans des émissions radio. Et puis, j'adore ce qu'elle fait. J'adore ses morceaux. C'est vraiment une artiste talentueuse. Et on lui a proposé de venir, d'intervenir sur ce morceau-là. Mais elle intervient même en chœur dans d'autres morceaux, dans un morceau précédent, dans Change, dans l'EP précédent, avec Sy Johnson. Mm-hmm. Elle fait les chœurs, elle intervient assez souvent dans les trois EP. Et en général, les featuring, alors sur des projets autoprod comme ça, on n'a pas eu, et avec le confinement et budgétairement, les moyens de trop se déplacer, d'aller enregistrer les gens ailleurs. Donc du coup, ça s'est fait avec des gens avec qui... On a des proximités, avec qui on collabore et avec qui il y a des facilités de travail. Mais pareil, je trouve que justement le hip-hop, le rap, c'est génial, parce que justement c'est une musique de partage et on peut inviter des artistes qui sont d'horizons différents, parce qu'à la base Elodie vient du jazz, mais elle a fait de la soul, elle a fait des musiques avec des inspirations africaines ou reggae. Donc c'est quelqu'un qui est complètement éclectique, et ça nous parle. Moi je trouve que aujourd'hui dans la musique, il y a tout à gagner à se mélanger et à s'ouvrir aux autres. Je pense qu'on essaie de toujours avoir cette ouverture d'esprit pour pouvoir inviter des artistes qui viennent d'univers différents.
Et je trouve que ça se marie vachement bien sur le morceau Été avec le refrain qui est chanté par Shuriken.
Oui.
Et du coup, ce morceau-là particulièrement, on ressent vraiment une espèce de déclaration d'amour à la rue, à cette effervescence comme ça que la vie là.
Oui, à la vie en général. C'est vraiment l'été. C'est une sorte de travelling, de rouling en voiture, et avec un regard qui passe à l'extérieur et qui accroche des gens. Et vraiment, Elodie a fait vraiment une performance incroyable sur ce morceau.
Et que ce soit dans ce titre ou même dans les autres titres, on retrouve toujours cette notion de bienveillance et de respect. Sur le titre Été, en l'occurrence, c'est beaucoup de notion de respect de la vie de gens de tous les jours, un peu. Et de...
Oui.
Et de... Comment
pas
dire
d'échelle, de... Pas d'échelle. C'est la manière dont on a été élevé. Mes parents, par exemple, m'ont élevé dans l'état d'esprit de se dire, voilà, il ne faut pas mettre d'échelle. Il n'y a pas des gens importants et des gens moins importants, il y a des gens en point. Et il y a des fois des histoires profondes à raconter chez des gens ordinaires. On est dans des pays où aujourd'hui notre société hiérarchise énormément les personnes. Nous, dans notre musique, on essaie de défaire tout ça.
Et il y a aussi un autre phénomène que j'ai beaucoup ressenti en écoutant l'album et que vous essayez de déconstruire, c'est ces stéréotypes qui sont mis en avant par les rappeurs d'aujourd'hui, hein, on va dire par la vague d'aujourd'hui, ça revient souvent cette thématique dans les différents titres de cette EP, même celui d'avant et encore d'autres. C'est vraiment de déconstruire l'idée du véhiculé mauvaise du hip-hop qui est le voyou, trafiquant, sable de luxe, etc. C'est vraiment quelque chose que vous essayez de déconstruire et de redonner l'essence.
Alors, déconstruire surtout, c'est que le hip-hop reprend des codes qui sont présents dans la société. Parce que je pense que le français en général aime s'en canailler. Et que le hip-hop n'y échappe pas, malheureusement. Et que en fait, très souvent, on a dit ben, le rap, c'est violent. Le rap est juste un reflet de ce que notre société, culturellement et sociétalement, produit. Si on produit du consommable, de la musique à jeter ou des objets à jeter, le hip-hop sera cette image-là. Si l'encanaillement chez les Français, c'est quelque chose qui a toujours existé. Les gens adorent, ont toujours adoré le bad boy, le méchant garçon. Il aimait à l'époque de Johnny Hallyday, il aimait à toutes ces époques-là, le blouson noir, c'est quelque chose qui leur plaisait. Par contre, ça leur plaît, mais tant qu'ils les embêtent pas à eux. Quand ils viennent les embêter à eux, ça leur plaît un peu moins.
Okay.
C'est le bad boy, mais loin.
Et alors, je suis obligé de poser cette question sur l'actualité. Donc, vous avez fait récemment l'actualité des médias du fait que vous prenez en charge les tests Covid des personnes qui se rendent à vos concerts. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce choix ?
C'est un choix égalitaire, c'est-à-dire que nous, on essaie de respecter des choses qui sont écrites sur les frontons de nos monuments. Il y a écrit liberté, égalité, fraternité. On essaie de faire respecter ces trois mots. Nous, on perçoit notre public comme étant, nous, on ne fait pas de distinction entre vaccinés, non vaccinés, filles, hommes, riches, pauvres, chrétiens, juifs, musulmans. Ces distinctions-là, on ne les fait absolument pas. Donc on a voulu prendre en charge, et je trouve que c'est lamentable du gouvernement de ne pas rembourser les tests. C'est un mouvement pour aller vers la vaccination forcée. Ça va aboutir à un seul truc, c'est que les gens vont aller voir leur généraliste en disant j'ai un peu mal à la gorge. Le généraliste va marquer un test PCR ou un test à ces personnes-là. Et au lieu de coûter 22 balles à la sécurité sociale, ben ça en coûtera 52. Et je trouve que dans toute cette crise-là, le fantastique système de sécurité sociale qu'on a en France est mis à mal et violenté, notamment par des gens qui sont censés nous protéger. Donc nous, on a fait en sorte que tout le monde soit traité pareil. Et on réaffirme nos positions contre le pass sanitaire, c'est-à-dire comme il y a, je le rappelle, aux Français, en Espagne, au Portugal, dans tous les pays nordiques, en Angleterre, il n'y a pas de passe. Il y a un passe sanitaire en Italie, en France, là où d'ailleurs où beaucoup d'hommes et de femmes politiques ont travaillé pour les banques et pour les sociétés pharmaceutiques. Donc il n'y a pas de hasard. Aujourd'hui, avec l'annonce de Darmanin vendredi dernier, qui dit qu'il n'y aura pas de passe sanitaire pour les meetings politiques, comment voulez-vous que les artistes, nous, en réagissent ? On comprend pas, on est dans des salles avec 2000, 3000 personnes, on nous impose de rembourser une partie du public dans des régions où il y a une forte incidence parce qu'il y a 75% de la capacité qui est ouverte. On nous impose des contrôles de passe sanitaire à l'entrée, alors que pour un meeting politique, il n'y a aucune restriction. Qu'est-ce qui différencie un meeting politique d'un concert ? Les gens sont dans des salles et sont à la même distance.
On comprend bien votre point de vue. Ouais. Alors, malheureusement.
On vit une période terrible. Des fois, moi, je, justement par rapport à l'actualité, j'essaie de clore les débats assez rapidement. Quand on parle, on revient, on dit écoutez, la publicité du gouvernement, si on peut discuter de tout sauf des chiffres, ben, le chiffre à retenir, c'est la moyenne d'âge de gens qui décèdent de cette maladie. C'est 84 ans. Et l'espérance de vie en France, c'est 82 ans. Voilà, tirez-en des enseignements.
Merci d'avoir répondu à cette question. On le rappelle, vous êtes en concert ce dimanche à 19h30 à la Laiterie. Malheureusement, j'avais tout plein de questions, mais on n'a pas forcément le temps.
Il faut que j'y aille.
Alors, on rappelle aussi que votre nouvelle EP, 3e vague, est disponible depuis le 22 octobre sur toutes les plateformes. Et on vous souhaite alors un super show, une excellente tournée, un super show à Strasbourg. Et n'oubliez pas, demain, c'est loin.
Merci beaucoup et plein de belles choses à vous et à toutes les personnes qui écoutent.
Merci. L'invité de la rédaction.